Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture que vous retrouvez tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je suis Isabelle Lasserre et toute la semaine, je présenterai cette émission à la place de Florian Delorme. Elle a été réalisée par Anna Holweck, préparée par Bertil Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Roxane Poulain et Léa Sabourin. À la technique aujourd'hui, Jacques Hubert. Culture Monde se penche cette semaine sur les disrupteurs, ceux qui ont bouleversé la vie géopolitique ou diplomatique en 2019. Aujourd'hui, nous ouvrons la séquence par Emmanuel Macron. Demain, nous nous intéresserons au président turc Recep Tayyip Erdogan. Mercredi, à Donald Trump et jeudi, au premier ministre britannique Boris Johnson. À des degrés divers, tous ont suscité des ruptures majeures sur la scène internationale en 2019. Emmanuel Macron a remis en cause la pertinence de l'OTAN et amorcé un rapprochement avec la Russie au grand dam de ses partenaires européens. Recep Tayyip Erdogan a remis en cause la cohésion de la coalition anti-Daesh en intervenant militairement en Syrie et affaibli celle de l'Alliance Atlantique en achetant du matériel militaire ultra sensible à la Russie. Donald Trump a délaissé ses alliés traditionnels, il veut quitter la Syrie et s'est retiré de l'accord sur le nucléaire iranien. Quant à Boris Johnson, il restera sans doute comme l'homme qui a fait sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Avec des styles différents, ils ont tous brisé des tabous et secoué le système international, contribuant à défaire les vieux mondes créés après la Seconde Guerre mondiale et à la guerre froide.
Je crois que la vocation de la France, c'est d'essayer de peser dans cet ordre du monde avec les cartes qui sont les nôtres pour ne pas céder à quelque fatalité que ce soit. Et donc, je ne crois qu'à une chose, c'est la stratégie de l'audace, de la prise de risque. Ce qui veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce que nous ferons ne réussira peut-être pas. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, parfois portés par des responsables politiques. Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle. De l'autre côté, je souhaite aussi que dans le cadre de cette recomposition, de ce nouvel agenda que je souhaite qu'on puisse lancer ensemble, d'une architecture de sécurité et de confiance, on puisse lever beaucoup des malentendus qui se sont installés entre parfois l'Union européenne et la Russie depuis plusieurs décennies.
Il est différent des autres disrupteurs qui perturbent la scène internationale car ce n'est pas un populiste et qu'il respecte la plupart des grandes règles du jeu. Pourtant, au nom du pragmatisme et du réalisme, Emmanuel Macron a remis en cause certains fondamentaux de la diplomatie française et déstabilisé ses alliés en faisant sauter plusieurs tabous. Sa plus grande audace aura été d'affirmer dans une interview donnée à The Economist en novembre dernier que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Mais Emmanuel Macron a aussi décidé de se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine sans prévenir ses partenaires d'Europe centrale et orientale qui craignent toujours la menace de leurs grands voisins de l'Est. Au Sahel, où l'opération Barkhane patine, il a rebattu les cartes, affirmant même être prêt, si les États de la région ne jouent pas davantage le jeu, à trouver un autre rôle plus léger aux forces françaises qui luttent contre le terrorisme. Sa manière de faire de la diplomatie est souvent jugée arrogante par ses alliés européens et trop solitaire par les administrations françaises qui payent parfois les pots cassés de ses coups d'éclat, d'autant que les résultats sont pour l'instant mitigés. La médiation française sur l'accord nucléaire iranien n'a pas réussi. La dernière réunion du groupe de Normandie n'a pas ramené la paix entre la Russie et l'Ukraine. Le couple franco-allemand fait chambre à part. Et les efforts d'Emmanuel Macron pour convaincre Donald Trump de revenir dans l'accord de Paris sur le climat ont fait flop. Le seul succès dont peut s'enorgueillir l'Élysée pour l'instant est d'avoir convaincu le président américain à revoir à la baisse son retrait de Syrie. D'autres succès viendront-ils s'ajouter dans le grand chantier qu'a ouvert le président en Europe, où il veut imposer la France comme une puissance d'équilibre capable de parler à tout le monde. Au moment où la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne et où l'Allemagne vit la fin de règne d'Angela Merkel, Emmanuel Macron est désormais le seul dirigeant européen à présenter une vision stratégique et globale pour le continent. Quelles sont ses chances de succès ? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Michel Duclos, bonjour.
Bonsoir, bonjour Isabelle.
Vous êtes ancien ambassadeur, vous avez notamment été en poste en Syrie de 2006 à 2009. Et je ne saurais que trop recommander vos deux derniers livres, La longue nuit syrienne, publié aux éditions de l'Observatoire en 2019, et Le nouveau monde, le monde des nouveaux autoritaires, que vous avez dirigé cette année aussi aux mêmes éditions. Benjamin Haddad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur Europe de l'Atlantic Council, un think tank basé à Washington, chercheur en relations internationales. Et je ne saurais là aussi que trop recommander votre livre paru cette année chez Grasset, Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions perdues. Vous avez aussi publié au début du mois, justement, dans Foreign Policy, un article consacré à la nouvelle stratégie disruptive d'Emmanuel Macron. Alors, Benjamin Haddad, Emmanuel Macron a-t-il toujours été ce disrupteur qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en politique étrangère, ou est-ce de sa part une nouvelle méthode ?
Alors, c'est intéressant, dans votre introduction, vous avez dit c'est un disrupteur, mais ce n'est pas un populiste. Et c'est vrai qu'il a cette particularité d'être un libéral, un pro-européen, certains diraient un centriste, mais qui est fondamentalement du nouveau monde des populistes, qui considère que le monde dans lequel on évolue depuis quelques décennies est en train de changer radicalement, que le Brexit, que Donald Trump ne sont pas des accidents de l'histoire, mais vraiment des symptômes d'un ordre international qui est en train de se transformer, qui est en train de subir peut-être à contre-coup les conséquences de la fin de la guerre froide, et que dans ce monde, l'Europe est en train de décrocher, est en train de disparaître même, comme il l'a dit dans son interview à The Economist, dans un système qui sera de plus en plus caractérisé par la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, qui est caractérisé par le retour des rapports de puissance aussi, évidemment un environnement dans lequel l'Union européenne est moins à l'aise pour s'affirmer quand elle est entourée de Trump, de Poutine ou de Xi Jinping. Donc je crois que déjà il y a cette approche effectivement disruptive du monde et de la façon de le lire. Dans le style en revanche, je crois qu'effectivement il y a une nouveauté. On est à mi-mandat pour Emmanuel Macron, là, on va en parler, la première moitié du mandat a été très ambitieux sur le plan international et européen, mais je pense beaucoup plus concerté, beaucoup plus multilatéral. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans ce ton qui est ce que certains qualifieraient de plus brutal, de plus unilatéral, plus solitaire, comme vous l'avez indiqué, je crois que c'est aussi, ça dénote une forme de déception vis-à-vis de certains partenaires, au premier rang desquels l'Allemagne, qui avait été le partenaire privilégié hein, des deux premières années d'Emmanuel Macron, qui a essayé de convaincre Angela Merkel de, elle aussi, proposer des réformes ambitieuses pour que l'Union européenne s'affirme. Je pense que le cavalier seul qu'on voit aujourd'hui dans le discours et la méthode d'Emmanuel Macron est aussi une conséquence de cette absence relative de réponse de la part de Berlin.
Qui n'a pas pris la main tendue par Emmanuel Macron, et d'ailleurs le président français Michel Duclos en a souvent, on a l'impression qu'il estime avoir été trahi de la part de Angela Merkel. Est-ce que cette déception vis-à-vis de l'Allemagne est ce qui explique la méthode disruptive de cette deuxième saison de politique étrangère chez le président?
Oui, je partage tout à fait l'analyse de Benjamin Haddad, c'est-à-dire que en premier lieu, le président de la République s'adapte au monde tel qu'il est, et donc ce monde que dans notre livre nous appelons le monde des nouveaux autoritaires. Et donc quand vous avez affaire à Trump, à Erdogan, mais aussi à Poutine, à Xi, etc., vous ne comportez pas de la même manière que quand vous aviez affaire à Eisenhower, Macmillan, Adenauer, etc. Brejnev. Ça, c'est un premier point. Le deuxième...
Donc, juste une parenthèse. Donc, vous devenez populiste ?
Non, vous ne devenez pas. Le président ne peut pas être qualifié de populiste, mais il faut s'adapter au style de.
Donc, vous devenez disrupteur.
Donc, vous devenez disrupteur. Ensuite, c'est vrai, je suis très frappé de cet élément de, vous avez dit, déception, peut-être même frustration à l'égard de Merkel, mais aussi de Trump. sur l'affaire du nord-est syrien. Et dans l'interview...
Donc rappelons en une minute hein, le troisième retrait du président américain qui, pour la troisième fois, les États-Unis annoncent le retrait des troupes militaires de Syrie.
Ce qui en soi est sans doute une erreur stratégique, qui en plus nous met dans une situation, nous Français, particulièrement difficile, et ce qu'il a opéré sans aucune concertation d'aucune sorte avec ses alliés. Donc on peut comprendre que le président soit frustré et même furieux. Et donc, à la fois dans l'interview à The Economist et dans les propos qu'il a tenus à Londres lors du sommet de l'OTAN, on sent cette personnalité un peu à vif. Je dois dire aussi que la mort des 13 soldats français au Mali fait que quand vous êtes à l'Élysée, quand vous avez la charge de la responsabilité des affaires de la France, c'est pas des sujets intellectuels, c'est des sujets qui vous touchent en profondeur, comme ils touchent tous nos compatriotes. Alors, peut-être, Isabelle, si je peux me permettre d'ajouter un élément de perspective, ayant dit tout cela, il faut dire aussi que lorsqu'il croit être disruptif, souvent il exprime des positions traditionnelles de la France. C'est là-dessus qu'il faut peut-être revenir par la suite, contester l'OTAN, vouloir renouer avec la Russie. Ça nous paraît à nous, dans le climat français, disruptif, mais chez nos partenaires, c'est perçu comme une résurgence de tradition française bien établie.
Oui, on reviendra sur la question
rattachée au gaullisme.
On reviendra sur la question de l'OTAN, mais Emmanuel Macron va quand même beaucoup plus loin que ses prédécesseurs dans le rapprochement avec la Russie. Alors, est-ce que la déception vis-à-vis de Trump et d'Angela Merkel explique le rapprochement avec la Russie? Non, c'est autre chose.
Alors, c'est une interprétation possible, mais je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans ce sens. Je crois que vis-à-vis de la Russie, il y a des éléments de politique intérieure française. C'est une demande classique d'une partie de nos compatriotes. C'est aussi, au fond, le fond de l'air de l'establishment français en politique étrangère, et tous les présidents de la République, à un moment donné, sont tombés sur cette anomalie, comme l'expriment certains. Il faut essayer quand même de rétablir avec la Russie des relations plus normales. Et en même temps, là aussi où il est très français, c'est que c'est pas dans n'importe quelles conditions. Il a même utilisé l'expression « précondition » à Londres pour parler du dossier ukrainien.
Benjamin Haddad, comment vous expliquez-vous le tournant pro-russe ou pro-Poutine d'Emmanuel Macron ?
Alors déjà, moi je ne crois pas qu'on puisse parler de tournant parce qu'en fait je pense que cette politique vis-à-vis de Moscou, on la voit depuis le début du quinquennat, rappelez-vous, il invite Vladimir Poutine à Versailles au bout d'une semaine de son mandat. Alors certes, il y a la fameuse conférence de presse où il le confronte sur l'ingérence de Russia Today.
Tournant Sputnik. De la diplomatie française.
Tout à fait. Il le confronte sur l'ingérence de Russia Today et Sputnik dans la campagne, donc l'image était spectaculaire, mais le contexte était quand même d'inviter Vladimir Poutine pour parler notamment de la Syrie, de la lutte contre le terrorisme. Et donc, il a essayé de poser les bases dès le départ d'un dialogue exigeant avec la Russie, qui considère que l'Europe a besoin de partenaires, notamment dans un monde bipolaire qui est caractérisé par la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qu'on a des intérêts communs avec la Russie sur la lutte contre le terrorisme. Après, est-ce que la Russie lutte vraiment contre le terrorisme et est-ce que la Russie est vraiment un partenaire en Syrie? Personnellement, j'en doute, mais il peut y avoir des analyses différentes. Et en même temps, quand on regarde le discours d'Emmanuel Macron, il est intéressant parce que d'un côté, vous avez ces images très spectaculaires avec Vladimir Poutine, l'inviter, lui parler. Mais sur les fondamentaux de la politique, reste assez stable. La position de la France sur l'Ukraine est la même. On n'a pas vu, par exemple, d'abandon de notre partenaire ukrainien récemment en Normandie. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le dit, on ne peut pas espérer un nouveau dialogue avec la Russie sans avoir réglé la question ukrainienne et les accords de Minsk 2 qui avaient été négociés en partie par son prédécesseur François Hollande avec Angela Merkel sont toujours la base de la négociation pour la question ukrainienne. La France est toujours partie du régime de sanctions européens à l'égard de Moscou. Et quand Emmanuel Macron parle d'une nouvelle architecture de sécurité et de confiance avec la Russie, il le dit lui-même, il parle d'un horizon de 10 à 15 ans. Donc, on est en fait sur le fond de la politique, dans quelque chose d'assez prudent. Je crois que ce qu'il essaie de faire, c'est d'envoyer un signal à Moscou pour dire que si on arrive à régler la question ukrainienne, on reviendra pas au statu quo ante, mais on essaiera de d'intégrer la Russie, d'intégrer les impératifs de sécurité et la vision du monde de la Russie dans cette architecture de sécurité européenne. Bon, il n'est pas le premier à faire ce pari. C'est un pari notamment qui a été fait par des présidents américains successifs, George W. Bush, Barack Obama, d'une certaine façon Donald Trump, qui paradoxalement était un peu plus entravé par sa politique intérieure dans sa volonté de rapprochement avec la Russie. Est-ce que Vladimir Poutine prend au sérieux une initiative européenne, a fortiori une initiative d'un pays européen, alors qu'en fait sa vision du monde est quand même essentiellement marquée par Washington, on peut se poser la question. Mais je pense que c'est quand même utile de rappeler que pour le moment, il y a effectivement cette audace française, mais qui reste quand même encore dans un cadre politique assez prudent et limité.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres domaines de politique étrangère dans lesquels Emmanuel Macron est disrupteur? Alors, on pourrait peut-être parler un tout petit peu du Sahel. Il est disrupteur dans le sens où, pour la première fois depuis l'intervention militaire française au Mali, il a remis en question la présence française en disant que finalement, si les pays africains n'y mettaient pas un peu plus du leur, et notamment le Mali, ils pourraient tout à fait envisager une présence beaucoup plus légère. Et il y a aussi un autre sujet, donc je voudrais que vous parliez, Michel Duclos, il me paraît assez disrupteur, c'est la manière dont Emmanuel Macron parle aux diplomates, a parlé aux diplomates et au Quai d'Orsay dans sa conférence des ambassadeurs, quand il a critiqué ce qu'il appelle l'état profond, mais on va pas revenir forcément sur l'état profond, mais la manière dont en fait il s'émancipe un petit peu de ces grandes administrations et des conseillers traditionnels qui font la politique étrangère française pour agir seul et de manière un petit peu spontanée.
Alors sur votre second point, Macron et les diplomates, là je dois dire je dis joker. Parce que je n'en sais rien. On ne sait pas comment au quotidien il fonctionne. C'est pas le premier président de la République à être impatient avec les administrations. Quand Sarkozy est arrivé, il témoignait du même type d'impatience. Et il faut se souvenir que François Mitterrand est arrivé à l'Élysée très méfiant à l'égard du corps diplomatique. Il a d'ailleurs nommé un certain nombre d'amis dans des ambassades, ce qui a beaucoup choqué à ce moment-là les diplomates. Et puis, progressivement, Mitterrand s'est rendu compte de la capacité de travail, de l'utilité. D'ailleurs, le même phénomène pour Sarkozy. Ce Sarkozy, je l'ai vu de mes yeux, le dédain s'est transformé progressivement en une forme de respect. Et donc, Que le président soit impatient à l'égard des diplomates, c'est assez classique. De surcroît, dans le système de la Ve République, c'est quelque chose contre quoi il faut lutter constamment. Le président, structurellement, par configuration, a le sentiment que c'est lui qui fait tout dans la politique étrangère. Et il faut avoir c'est un peu le rôle des journalistes et des commentateurs, et il faut avoir le courage de rappeler progressivement qu'on ne fait pas une grande diplomatie sans grands diplomates qui ont les moyens de travailler. Alors, sur votre premier point, le Sahel, là, je dirais avec une certaine admiration que c'est une chose d'être disrupteur vis-à-vis du monde, vis-à-vis des leaders étrangers, de nos partenaires. C'est une chose encore plus courageuse, d'une certaine façon, d'être disrupteur vis-à-vis de nos propres politiques, vis-à-vis de nos engagements, vis-à-vis de nos pratiques. Et là, au Sahel, je ne sais pas s'il a raison ou s'il a tort, mais en tous les cas, c'est vrai que ça témoigne de sa part d'un vrai courage, d'une vraie conviction qu'il est nécessaire de prendre les choses à bras-le-corps et qu'il y a des événements qui se produisent, on ne peut pas simplement se dire « ça va passer, c'est dommage, mais c'est comme ça ». Et ça, c'est un trait du caractère de Macron qui force encore une fois l'admiration. Moi, je ne serais pas étonné qu'il effectivement qu'il imprime une reconfiguration très forte à notre engagement au Mali. Je ne crois pas qu'il va décrocher du jour au lendemain, mais je crois aussi qu'il doit tenir compte à la fois des risques que nous avons pris, de tout ce qui se passe dans cette région, effectivement la montée du sentiment anti-français, et aussi il doit anticiper ce qui peut se passer dans notre propre opinion publique.
Benjamin Haddad, sur ces deux sujets, le Sahel et les diplomates, vous pensez la même chose ?
Non, sur le Sahel, je suis fondamentalement d'accord avec Michel Duclos qui disait tout à l'heure qu'effectivement, pour un président de la République, c'est pas un sujet intellectuel de voir 13 soldats français mourir, de devoir consoler les familles présider à la cérémonie. Je crois qu'il a eu raison de rappeler lors du sommet de l'OTAN que c'est une mission pour laquelle la France s'engage aussi auprès de ses partenaires européens. C'est évidemment une mission d'antiterrorisme qui bénéficie à l'ensemble du continent. Et donc quand on parle de partage du fardeau au sein des alliés, le rôle de la France dans cette région est absolument fondamental. Et d'ailleurs, je vis à Washington, on entend souvent le président Trump, mais aussi son prédécesseur Barack Obama, parler d'alliés européens qui sont des passagers clandestins, qui devraient prendre plus du fardeau sur les questions de sécurité. Et en fait, le Sahel, et d'ailleurs les militaires américains sont les premiers à le rappeler régulièrement, le Sahel est un excellent exemple d'un allié qui prend ses responsabilités, qui envoie des soldats, qui a une capacité d'agir assez agile, assez souple, et en même temps qui le fait en intégrant les impératifs de sécurité de ses partenaires, les Américains, les Européens. Et donc, Michel Duclos a rappelé l'importance de rebattre les cartes au niveau régional, mais je le dirais aussi au niveau européen, où c'est important d'avoir nos partenaires qui aussi s'engagent aux côtés de la France sur ce terrain. Je pense qu'un retrait ou un retrait précipité pourra avoir des conséquences de sécurité avec la réémergence de mouvements islamistes dans la région. Donc ce n'est pas évidemment l'option souhaitée, mais la France a besoin de partenaires comme ça a été prouvé de façon dramatique le mois dernier. Quant au point sur les diplomates, je suis effectivement fondamentalement d'accord. Le président de la République, et c'est son rôle, c'est l'autorité politique légitime, élue démocratiquement, doit impulser, doit donner la vision. Et on peut comprendre quand on a ce parcours politique, et en plus un parcours politique assez inédit à la Emmanuel Macron, qu'il puisse y avoir une forme d'impatience vis-à-vis de bureaucratie plus traditionnelle, et qu'on ait envie d'être plus créatif. Mais évidemment, pour après pouvoir imposer une politique étrangère en réseau qui suit, qui ne soit pas qu'une politique de coups déclaratoires. On a besoin d'un réseau, on a besoin de relais, on a besoin de diplomates qui puissent faire le service après-vente de cette politique. C'est ce qui manque parfois à cette politique étrangère. C'est-à-dire, c'est des coups, une interview spectaculaire où on voit vraiment une vision articulée, et après on se demande bon, quelle est la séquence qui va suivre derrière. Et c'est en cela que c'est important aussi d'avoir quelque chose de plus pensé sur le long terme.
Alors, on verra les limites de cette politique tout à l'heure dans un deuxième temps. J'aimerais qu'on essaye d'en extraire les côtés positifs. On pourrait se dire que finalement, les propos de Macron sur l'OTAN, Benjamin Haddad, sont le triste constat de la réalité. On pourrait se dire, c'est pas plus mal dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui a beaucoup changé, de faire une politique étrangère qui soit moins idéologue. Enfin, en tout cas, avec moins d'idéologie et davantage basé sur le pragmatisme et le réalisme. On pourrait se dire aussi que Macron est un des seuls en Europe à avoir une vraie politique étrangère avec une vision stratégique du monde.
Quand vous avez une interview dans The Economist, où donc le président de la République dit « l'OTAN est en état de mort cérébrale »,« brain dead », l'expression qui a été reprise partout, et que pendant un mois et demi, le monde entier, tous les jours, vous dites non, mais c'est pas vrai, tout va bien, tout va bien. Parce qu'à un moment, effectivement, il a mis le doigt quand même sur un sujet. Il y a des dénis, il y a des hypocrisies. Qu'une interview dans The Economist provoque un tel tollé à Washington, à Berlin, à Londres, partout, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème. Le nombre de gens que j'ai entendu à Washington, dans les think tanks, me dire, entre deux portes, il a raison de le dire, mais il faut pas le dire comme si tout ça était performatif et que tout d'un coup, l'OTAN allait s'effondrer parce qu'effectivement, on allait constater qu'il y avait un problème, c'est assez invraisemblable. Alors, ce qu'il dit dans l'interview, quand on lit, c'est que d'un point de vue institutionnel, l'OTAN se porte bien, et c'est vrai que l'institution OTAN a été renforcée ces dernières années depuis 2014, l'agression russe contre l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, on a vu le renforcement de troupes américaines, européennes, de moyens, de présence en Europe de l'Est, on a vu maintenant l'Alliance qui commence à s'intéresser à des sujets comme le cyber, la mobilité militaire, etc. Mais le problème qu'il souligne, et qui est un problème que n'importe quel citoyen peut constater, c'est un problème de pilotage politique, c'est un problème de divergence stratégique entre les alliés, à commencer par deux présidents américains de suite, en particulier celui-ci qui remet en cause les fondamentaux de l'alliance transatlantique en disant que les Européens ne sont pas assez responsables, que les intérêts des Américains se portent ailleurs, que ce soit en Asie ou même sur le territoire américain lui-même. C'est les divisions des priorités entre Européens, c'est la présence de la Turquie qui a évidemment des intérêts qui sont parfois complètement divergents des nôtres en Syrie. Donc on a besoin de poser ces questions. Alors l'objectif d'Emmanuel Macron quand il fait ça, c'est de sortir les Européens de leur léthargie stratégique et de les forcer à se poser des questions sur eux-mêmes et à s'interroger sur le monde qui est en train de se développer sans nous, autour de nous. Alors, après, la question que je pose, c'est celle que je posais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la séquence qui suit ? C'est-à-dire qu'on a maintenant un comité des sages, un comité d'experts qui a été mis en place à l'OTAN pour réfléchir à l'avenir de la structure. Moi, généralement, je m'interroge sur la capacité de grandes organisations à réfléchir à leur propre disruption. Effectivement, il faut maintenant faire des propositions. Bon, c'est ce que fait, dans une certaine mesure, Emmanuel Macron depuis 2 ans, avec le discours sur la Sorbonne, la lettre sur le renouveau européen, mais on ne pourra pas le faire tout seul. On a besoin de partenaires, en Europe centrale et orientale, qui sont des pays qui pensent aux questions militaires, qui ont des intérêts de sécurité et qui s'inquiètent des intentions de la France quand elle commence à questionner l'OTAN. Mais effectivement, qu'on pose les bases d'un débat qui est nécessaire et qui est évident, ça me paraît important.
Michel Duclos, est-ce qu'on peut encore faire de la diplomatie comme avant ?
Alors, quand situez-vous l'avant, chère Isabelle ?
Ah bah, quand vous voulez, justement, mais avant l'émergence des nouveaux autoritaires.
Je crois que la...
En gros, est-ce qu'il ne vaut pas mieux la disruption que l'action, l'inaction ?
Dans le monde des nouveaux autoritaires, il y a un nouveau type de leader qui s'affirme, et qui pour l'instant sont des leaders justement autoritaires ou para-autoritaires ou tentés par l'autoritarisme, sur la voie de l'autoritarisme. Nous avons besoin, face à cela, de leaders libéraux, mais qui soient aussi des leaders. C'est-à-dire que ça ne peut plus être un homme d'État anonyme. Ça doit être quelqu'un qui a du charisme, qui puisse incarner des aspirations populaires. Et au fond, dans cet emploi-là, il n'y a pas tellement de candidats. Et nous avons besoin d'hommes d'État qui soient conformes aux réalités d'aujourd'hui, donc qui soient capables de s'affirmer, d'exister de façon spectaculaire, qui soient conformes au charisme de notre temps et qui en même temps incarnent les valeurs libérales. Et là, je crois qu'il y a un rôle pour Macron. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, il ne faut pas qu'il soit seul. C'est-à-dire que si son pari sur l'Europe réussit, ça voudra dire qu'il perdra ce leadership de l'Europe, ou du moins, il le partagera avec d'autres. Pour ma part, je pense qu'il a bien réussi son coup sur l'OTAN, au moins le point de départ. Il a bien lancé la balle. Maintenant, pour que la balle suive, il ne peut pas être tout seul. Et à Londres, une fois de plus, on a vu que c'était un show Macron-Trump. Le prochain rendez-vous de l'OTAN, si Macron a gagné, ce ne sera pas un show Macron-Trump. Ce sera un show Macron, le Polonais, l'Allemand, Johnson, qui est capable d'une certaine façon de se hisser à ce niveau. Et il me semble que après Londres, il faut que les diplomates et la diplomatie française construise toute une stratégie. Un élément de cette stratégie, c'est quand même cela, c'est que Macron ne soit pas isolé, mais qu'il devienne un leader parmi d'autres capable d'affirmer la voix de l'Europe.
France Culture, Culture Monde, Isabelle Lasserre.
La nature du processus d'élargissement ne me semble plus adaptée. D'abord parce que elle est au fond très bureaucratique. L'accord politique, il est au début et à la fin. Il ne parle plus au peuple. C'est un agenda stratégique qu'il faut avoir, avec des partenaires, pas forcément des futurs membres. Et puis surtout, cet agenda d'élargissement n'est plus adapté, il n'est pas assez différenciable et différencié, il n'est pas assez politique à des moments, pour moi, du processus, et il doit être clairement réversible. Sinon, il n'est pas crédible. Et donc, je souhaite, avant que nous ouvrions à de nouveaux États membres, qu'on fasse cette réforme qui est demandée depuis des années par plusieurs États membres.
Vous écoutez Culture Monde, on est ensemble jusqu'à midi. Rejoignons maintenant au téléphone Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, spécialiste des pays d'Europe centrale et orientale. Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Alors, en octobre dernier, Emmanuel Macron, on l'a entendu dans cet extrait sonore, le sujet, avait mis son veto à l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Ce faisant, il s'était mis à dos la Commission européenne qui recommandait depuis longtemps cette ouverture. Et il s'est mis aussi à dos une partie des pays des Balkans. Est-ce qu'il a eu raison, Jacques Rupnik ?
Non, je pense qu'il a fait un contresens, ou disons, c'est peut-être caractéristique de ce dont vous avez déjà parlé dans l'émission, il y a un décalage entre le discours et la méthode. Et le discours sur l'élargissement, il est parfaitement recevable. Il faut réformer la méthode. On peut pas appliquer la même chose que ce qui avait marché pour l'Europe centrale il y a 20 ans. Et c'est vrai que le processus peut paraître à certains un peu formel, bureaucratique. Il y a des chapitres à ouvrir. La Commission coche des cases. Bon, ça ne va pas. Il a raison de repolitiser le processus, de montrer qu'il y a des étapes, mais aussi de dire que, pas seulement différenciation, mais que le processus peut être réversible. Donc ça, c'est... Sur le fond, il engage un vrai débat, un débat nécessaire. Sur la méthode, il le fait en bloquant l'ouverture des négociations, donc non pas l'adhésion elle-même, mais l'ouverture des négociations avec un pays qui est la Macédoine, qui vient de faire deux choses importantes du point de vue européen. Trouver un accord avec la Grèce sur la question du non, ça fait près de 30 ans que cette question bloque et anime, disons, des deux côtés de la frontière les nationalistes. Donc au nom de l'Europe, on trouve un accord qui est ensuite ignoré dans la réponse européenne, et aussi le nouveau gouvernement macédonien qui s'est engagé dans des réformes précisément allant dans le sens de ce que souhaite l'approche macronienne, c'est-à-dire des réformes de fond sur l'état de droit, la lutte contre la corruption, et surtout qu'il y ait un changement politique après une période où on a vu au pouvoir un pouvoir nationaliste autour de Gruevski, qui, soit dit en passant, s'est réfugié depuis à Budapest et attend son retour, parce que maintenant, bien entendu, avec ce qui s'est passé, c'est tous les Balkans ont compris le message français, la France est contre l'élargissement, point, et c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais voilà, entre le discours, entre la réalité du débat sur l'élargissement et la méthode, je crois que là, il y a une contradiction, et on pourrait dire que c'est un peu la même chose sur d'autres sujets, malheureusement.
Oui, alors justement, quand on reprend ces propos très radicaux sur l'OTAN et son rapprochement avec la Russie, et quand on voit la colère et l'inquiétude qu'ils ont provoqué en Europe centrale et surtout orientale, hein, où les pays anciennement communistes comptent sur les États-Unis et sur l'Alliance Atlantique pour les protéger de la menace russe, est-ce qu'on peut pas se dire que Emmanuel Macron, qui voulait rassembler l'Europe, l'a finalement plutôt divisé?
Voilà, c'est à nouveau il a fait quatre grands discours sur l'Europe au cours de la première année, hein, le discours de la Sorbonne, Athènes, le discours du Parlement européen, le discours à Aix-la-Chapelle quand il a reçu le prix européen. Bon, ces quatre discours, rien que ces quatre-là, ça fait un programme européen ambitieux, voilà. Et comme il y a, comme les Britanniques étaient en train de partir et les Allemands n'avaient pas grand chose à dire, il y avait un vrai leadership européen qui pouvait s'esquisser. Or, on a vu là, alors là, ce n'est pas seulement de la faute de la diplomatie française, mais disons, il y a eu une incapacité à traduire cet élan, cette ambition en convergence politique, et donc l'idée de l'autonomie stratégique qui est quand même au cœur de l'approche macronienne, l'autonomie stratégique de l'Europe, s'accompagne de deux déclarations. L'OTAN est en mort cérébrale, on décrète ça pour son 70e anniversaire, et d'autre part, on engage des négociations ou un nouveau rapprochement avec la Russie, mais un rapprochement non pas au long de l'Union européenne, c'est un rapprochement bilatéral. Et donc vous ajoutez la mort cérébrale de l'OTAN et le rapprochement avec la Russie, et vous avez l'Allemagne qui se demande ce qui se passe, et toute l'Europe de l'Est qui est en émoi en disant on est en train de torpiller l'OTAN. Alors que si on avait dit clairement autonomie stratégique européenne au sein de l'OTAN, c'est au sein de l'OTAN que ça se passe, mais puisque l'OTAN est en doute à cause de la politique de Trump, voilà ce qu'est, ce qu'on a appelé ça parfois le pilier européen, voilà comment nous allons le faire, et nous allons le faire en discutant avec nos partenaires, voir comment on peut faire avancer. Et donc voilà, ce que je constate, c'est le décalage entre l'ambition initialement affichée, et puis ensuite les deux étapes qui ont braqué une bonne partie de l'Europe contre ce discours français.
Oui, alors Jacques Rupnik, il y a 10 jours, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a fait un discours important et remarqué à Prague, qui est un discours qui était très ouvert et très compréhensif vis-à-vis des pays d'Europe centrale et orientale. Il était sans doute en partie destiné à réparer les dégâts de la politique macronienne dans la région. Est-ce que vous pensez que cette tentative du ministre des Affaires étrangères a des chances de fonctionner?
Je l'espère, bien entendu, parce que quelqu'un comme moi qui est attaché à ce que, disons, ce qui était anciennement l'Europe divisée, essaye de former une puissance politique cohérente. Donc, bien entendu, j'aurais aimé, évidemment, que le discours ait été prononcé, peut-être même par le président, et avant les dégâts que nous avons évoqués. Bien entendu que comme tentative de rassurer les partenaires est-européens à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur, de la chute du système communiste, c'était bien. Il a trouvé les mots qu'il fallait. Il a montré que justement ce qui s'était passé il y a 30 ans faisait partie aussi de notre histoire, de notre réflexion sur l'Europe. Donc ça c'était très bien. Et bon, on peut souhaiter que ces paroles aient été entendues. Comme je suis les médias de ces pays et aussi les réactions, elles ont été tellement virulentes après à la fois la mort cérébrale de l'OTAN et le rapprochement avec Moscou, que ça va pas suffire à effacer les doutes. Je crois que le vrai test, ça sera l'avancée sur l'Ukraine. Si on montre que cette politique de, disons, pas de rapprochement, mais en tout cas de dialogue avec la Russie, qui n'est pas l'Union européenne, mais qui est dans le cadre du format Normandie, peut faire avancer les choses en Ukraine, et si on obtient des résultats tangibles, pas seulement sur l'échange de prisonniers, comme ça a été le cas, mais aussi peut-être sur le désengagement militaire russe de l'Est de l'Ukraine, même en laissant de côté la Crimée qui, là, ne bougera pas, et la condamnation européenne ne bougera pas non plus. Donc, laissant de côté, j'allais dire, ce statu quo sur la Crimée. Mais peut-être s'il y avait des avancées là, les Européens du centre-est regarderaient à ce moment-là le bilan. On jugera sur pièce avec les résultats.
J'ai une dernière question assez courte, Jacques Rupnik. Enfin, la réponse surtout, parce que la question, elle est vaste. Mais finalement, est-ce que dans cette région, Emmanuel Macron est un véritable disrupteur? Parce qu'en fait, tous les dirigeants français, depuis la chute du mur, ont à un moment donné malmené les pays d'Europe centrale ou orientale et fait preuve à leur égard d'une certaine arrogance. Enfin, on se souvient de la phrase de Jacques Chirac en 2003, quand ces pays avaient soutenu le camp américain pendant, il leur avait dit, vous avez perdu une occasion de vous taire. Donc c'est vraiment une particularité. C'est vraiment une particularité française de pas comprendre les pays d'Europe centrale et orientale. Est-ce que la vision d'Emmanuel Macron est si différente ?
Non, parce que effectivement, vous avez raison de rappeler. Et les ratages ou les malentendus, si on veut être plus neutre, sont nombreux. Commencer par François Mitterrand, sa grande ambition pour la Confédération européenne dès janvier 90. Il est le premier à avoir la vision qu'il faut offrir quelque chose à l'Europe centrale. Et puis il veut que ça se fasse avec l'Union soviétique, sans les Américains, et la Confédération est morte avant d'être née, parce que ça, c'était inacceptable pour les Européens de l'Est. Ils sortaient du bloc soviétique, ils voulaient pas être avec l'Union soviétique dans une Confédération. Ensuite, il y a eu Chirac qui a dit « Moi, je veux l'élargissement, mais je veux l'élargissement tout de suite, pas comme Mitterrand qui traînait les pieds. » Non, l'élargissement tout de suite. Il l'a dit à Varsovie, il l'a dit à Prague, et il y a eu ensuite cette phrase qui a fait très mal et qu'on répète encore aujourd'hui, ils auraient mieux fait de se taire, c'était au moment de la guerre en Irak, en mars 2003, et tous les efforts qu'il avait fait pour l'ouverture ont échoué. Vient ensuite président Sarkozy qui joue, j'allais dire, de ses origines centre-européennes, par son père. Il va d'abord en Hongrie, et il dit « je vous comprends, moi je suis là ». Il est venu à Prague, à Varsovie, etc.
Jacques Rupnik, je crois qu'on vous a perdu. La ligne a été coupée. De toute façon, nous arrivions à la fin, donc nous allons reprendre ce débat. Et Benjamin Haddad, je crois que vous vouliez ajouter un commentaire sur la question de l'élargissement sur laquelle on a fait réagir Jacques Rupnik.
Cette question de l'élargissement, je crois qu'elle est vraiment très intéressante pour notre propos aujourd'hui, à la fois sur le fond et sur la méthode. Emmanuel Macron s'est opposé à l'ouverture des négociations d'élargissement à l'Union européenne avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Effectivement, ça a provoqué une polémique, notamment parce que la Macédoine du Nord venait de signer un accord de paix historique avec la Grèce et que c'est un pays dans lequel on considère que le processus d'élargissement pourrait ancrer la démocratie libérale et le processus de paix. Vous avez d'un côté, sur le fond, effectivement, un Macron qui dit l'Union européenne doit se réformer, elle n'est pas prête à faire entrer des nouveaux partenaires, et on voit que ce processus est devenu beaucoup trop technique, beaucoup trop bureaucratique et pas assez politique, donc il veut forcer une conversation, une réforme sur le sujet pour avoir une Europe plus géopolitique, avec un processus de décision plus souple, moins dilué entre de nombreux partenaires. Mais c'est la méthode qui a choqué. C'est effectivement le fait d'imposer de fait un veto, ou en tout cas de s'opposer à l'ouverture, et tout de suite de faire des propositions qui sont en ce moment discutées par la Commission et par nos partenaires pour transformer le processus d'élargissement. Mais ce qui est intéressant, et c'est là qu'on voit effectivement la tension entre la disruption et l'attitude de nos partenaires, c'est que quand vous parlez à des gens autour du président sur le sujet, il vous dit « mais s'il n'y avait pas de crise, personne n'aurait examiné ces réformes ». Parce qu'aujourd'hui, on reproche à Emmanuel Macron d'avoir provoqué une crise et donc de pousser maintenant ses propositions. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'il fait des propositions et il a quasiment pas de réponse de la part de Berlin ou de la part des autres. Et donc effectivement, maintenant on est dans une méthode qui est différente, où on force, alors ça peut paraître brutal, mais on force les partenaires à examiner les propositions en provoquant des crises sur le sujet. Et on va voir d'ailleurs, si dans les prochains mois, la Commission européenne en janvier doit faire des nouvelles propositions sur l'élargissement, que nos partenaires européens vont peut-être adopter pour ensuite, éventuellement au printemps, ouvrir la porte à la Macédoine du Nord et à l'Albanie, avec un processus d'élargissement qui sera réformé, ce sera la preuve qu'effectivement cette méthode, aussi controversée soit-elle, est efficace.
Oui, il est un peu tôt pour juger. On va quand même essayer de tester les limites de cette méthode. Alors, Michel Duclos, est-ce qu'on peut, comme ça, renverser la table, remettre en cause les institutions, si on n'a pas les moyens de reconstruire et de remplacer? Parce que si on faisait la comparaison avec l'OTAN, quand De Gaulle se retire du commandement intégré en 1960, il me semble que la France avait à la fois 5% de croissance et 5% de budget de la défense. Donc elle avait vraiment du répondant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Est-ce qu'on est assez fort pour ainsi secouer le monde et secouer et renverser la table?
On a une valeur trébunitienne dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, exagérer effectivement le prestige de la parole, etc. Ça, c'est un travers français. Mais c'est vrai aussi que parfois, le discours compte. Pour moi, ce qui est vraiment au cœur de notre problème, c'est pas tellement une question de moyens, c'est pas tellement une question de disruption, c'est une question de stratégie. Et pour vous dire la vérité, sur la Macédoine et l'Albanie, je trouve, là, je réagis en professionnel ou en ancien professionnel, que c'est un dysfonctionnement de notre système. Car on peut justifier qu'on soit contre l'élargissement à ces deux pays, ou plus exactement à l'ouverture de négociations en vue de l'élargissement. Mais dans ces cas-là, il faut tuer le bébé avant qu'il soit sur le point de naître. Et donc, il y a des comités à Bruxelles, il y a des ministres des Affaires étrangères qui se réunissent, et c'est à ce moment-là. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour prendre une position qui apparaît forcément comme un caprice à ce moment-là. Et c'est ça que je redoute un peu, si vous voulez. Je crois que là, nous sommes dans une phase où nous devons examiner très sérieusement quels sont nos leviers et comment les utiliser pour atteindre nos objectifs. Nous avons les uns et les autres mentionné ce qui n'est pas un obstacle, mais ce qui est un handicap, c'est l'état actuel de l'Allemagne. Et donc, il faut voir comment contourner la difficulté allemande en trouvant des alliés ailleurs. Un des éléments qui vient à l'esprit, c'est l'Europe centrale, effectivement, où on a vu que peut-être que ça a mal commencé, qu'on s'y est mal pris, etc. Mais comme l'a dit Jacques Rupnik, il y a l'élément ukrainien. Il y a aussi, par exemple, un autre dossier qui est apparu assez fortement, qui est la question du contrôle des armements avec l'affaire des missiles de portée intermédiaire, les FNI.
La fin du traité FNI, hein, dont la Russie d'abord, puis les États-Unis se sont retirés.
Il faut dire que le président de la République, sans doute bien conseillé, a mis le doigt sur ce sujet et a trouvé là quelque chose qui parle aux Polonais, aux Tchèques et aux autres. Donc c'est pas uniquement l'Ukraine, on peut trouver d'autres dossiers sur lesquels il se trouve que la France exprime quelque chose que personne n'avait jusqu'ici soulevé et qui correspond à une vraie vocation européenne et aux intérêts des pays en question. Donc je crois aussi que, de manière générale, dans notre conduite du dialogue avec la Russie, il est possible d'intégrer les préoccupations de sécurité de nos partenaires d'Europe centrale, et c'est à ce moment-là qu'on retrouve à leurs yeux une certaine valeur. Donc voilà, pour moi, notre problème, il est là. Il est de trouver une stratégie, d'identifier les leviers, de bâtir des nouvelles coalitions, et c'est comme ça qu'on fera avancer nos idées et le projet visionnaire de Macron, de faire exister l'Europe entre la Chine, les États-Unis, la Russie.
Benjamin Haddad, Emmanuel Macron, pour ne pas être tout seul en Europe, est-ce qu'il faut qu'il change d'allié?
Non, mais je suis fondamentalement d'accord avec Michel Duclos. Le meilleur levier d'influence de la France, c'est effectivement d'exercer ce leadership européen. Et on voit cette fenêtre de tir entre le Brexit, le retrait américain et la paralysie et le statu quo à Berlin. Effectivement, la France est mieux armée. Vous avez raison de souligner que la France n'est peut-être plus ce qu'elle a pu être à d'autres époques, mais ça reste quand même l'un des deux grands acteurs militaires européen avec la Grande-Bretagne, l'un des principaux acteurs économiques, et peut-être le seul aujourd'hui qui a une véritable pensée stratégique élaborée et une capacité d'action.
Mais oui, mais parenthèse, Benjamin Haddad, et je vous laisserai reprendre, quand les États-Unis annoncent leur retrait de Syrie, la France se retrouve impuissante, parce qu'elle dépend des États-Unis dans la plupart de ses opérations extérieures au niveau militaire.
Oui, alors effectivement, la France, comme d'autres alliés européens, est effectivement encore dépendante des États-Unis, mais aussi parce que on est aujourd'hui dans le discours et dans le déclaratoire, mais qui n'est pas suffisamment suivi d'action. Si vous prenez la question syrienne, juste pour un aparté sur le sujet, ça fait effectivement 3 ans. Alors, ça fait 3 ans que le président Trump nous dit qu'il va se retirer. Il l'avait annoncé déjà pendant la campagne en disant que la priorité c'était la destruction de Daesh, qu'il n'avait aucune intention de rester durablement ou de jouer un rôle politique dans la reconstruction syrienne. Il a annoncé à plusieurs reprises, rappelez-vous, il y a un an déjà, c'est ce qui a mené à la démission du secrétaire à la défense.
Oui,
Jim
mais
Mattis.
Il finit toujours par tenir ses promesses, hein, même quand
mais
il
exactement.
Met plus longtemps.
Non mais c'est ce que je voulais dire, oui. C'est qu'il finit effectivement à chaque fois par tenir ses promesses. On considère que bon, les tweets ça fait pas de la politique ou qu'on peut le contourner en jouant avec le Pentagone, l'état profond américain contre lui, et au final on se retrouve et après on dit il est imprévisible. En fait il est pas du tout prévisible. Il est prévisible si vous essayez de savoir ce qu'il va tweeter dans 2 heures, mais il n'est pas du tout imprévisible si vous regardez le temps long de sa politique. Et d'ailleurs, sur certains sujets, ça fait 30 ans, sur l'immigration ou le commerce international ou les alliances, ça fait 30 ans qu'il répète la même chose. Et donc, c'est là qu'on aurait pu effectivement avoir une stratégie européenne, de se dire ce conflit syrien a des conséquences sur notre sécurité, sur nos institutions beaucoup plus profondes que sur les États-Unis, que ce soit la crise migratoire ou l'émergence de mouvements terroristes. Et là, il suffit. On parle parfois de divergences sur les questions de sécurité en Europe, mais si vous faites des sondages en Europe sur le terrorisme ou l'immigration, les Polonais, les Hongrois, les Français, les Britanniques, les Allemands pensent à peu près la même chose. Donc, on aurait pu. On parlait de 1000 forces spéciales américaines, c'était pas 150 000 soldats. On aurait pu s'arranger avec les Américains ces 3 dernières années pour progressivement remplacer une partie de la présence américaine par de la présence européenne concertée, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, aurait peut-être pu convaincre les Américains de rester. Donc c'est là effectivement, y compris en France, qu'il y a un problème d'action et de pensée stratégique. Mais juste pour revenir quand même sur vraiment
sur les alliés,
je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que la nécessité de construire de nouvelles coalitions en Europe, qui passera notamment par un discours, un dialogue différent avec les pays d'Europe centrale et orientale. Je suis d'accord avec Jacques Krupnik et Michel Duclos sur l'Ukraine, sur le contrôle des armements, et plus profondément pour revenir sur 30 ans de passif, 30 ans de rendez-vous raté et de malentendus entre la France et cette région, qui passera de notre part par plus d'empathie pour l'expérience historique et l'identité de ces pays. Je crois que le discours de Jean-Yves Le Drian à Prague allait dans le bon sens en parlant de cet Occident kidnappé, la fameuse formule de Milan Kundera. Sur des sujets comme l'immigration, c'est pas un sujet véritablement de politique étrangère, mais dont on a beaucoup parlé quand même ces dernières années en Europe, on n'a pas suffisamment compris le rapport à l'identité nationale de pays qui ont été captifs pendant plus d'un siècle et parfois plus longtemps. Sur l'OTAN, on ne comprend pas suffisamment que pour un pays comme la Pologne ou pour les pays baltes, l'OTAN c'est pas seulement une alliance militaire, une organisation, ça fait véritablement partie de l'ADN de l'indépendance de ces pays depuis 1989, au même titre que l'Union européenne. En France, on met pas l'Union européenne et l'OTAN sur le même plan. L'Union européenne, on a un rapport beaucoup plus identitaire que l'OTAN, et l'OTAN c'est beaucoup plus instrumental et transactionnel. C'est pas le cas pour cette région. Donc on est obligé effectivement de l'intégrer dans notre discours quand on leur parle. Donc ça passera par plus de respect, plus de patience, plus d'empathie, et pas seulement d'ailleurs des discours du président de la République ou du ministère des Affaires étrangères, mais on est dans la communauté des think tanks, ça passera aussi par, pour les chercheurs, pour d'autres, à investir cette région, à aller parler, à créer des liens. Ça prend du temps. Et c'est vrai que l'Union européenne, ça prend du temps, il y a 27 partenaires qui doivent se mettre d'accord, mais quand on arrive à trouver des sujets de convergence, c'est là qu'on peut vraiment être puissant et s'affirmer sur la scène internationale. Et c'est là que la déception légitime vis-à-vis de Berlin, la frustration de ces 2 dernières années, ne doit pas trouver sa réponse dans l'unilatéralisme, mais plutôt justement dans le fait d'aller trouver des nouveaux partenaires. Et un dernier point, un autre partenaire avec lequel il faudra être créatif ces prochaines années, c'est la Grande-Bretagne. Il faudra quand même s'interroger. Maintenant qu'on sort, et là-dessus, Emmanuel Macron a eu raison de trouver qu'on a passé beaucoup trop de temps dans les extensions et dans les discussions du Brexit en permanence, hein, que l'Union européenne doit avoir d'autres priorités. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit une forme de cette alliance un peu contre nature entre Boris Johnson et Emmanuel Macron ces derniers mois. La Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne le 31 janvier et maintenant tout est à reconstruire. Et nous avons intérêt à ce que la Grande-Bretagne reste un acteur européen sur les questions de sécurité et de défense, parce que c'est l'un des deux principaux acteurs militaires européens, et parce qu'on a vu ces dernières années, en fait, que la Grande-Bretagne commence à être de plus en plus proche de notre propre vision sur des sujets comme l'Iran, sur des sujets comme le terrorisme, comme la Russie. On a besoin de réfléchir à la façon dont on intègre les Britanniques. C'est ce que fait Macron un petit peu avec des propositions ces dernières années, comme l'initiative européenne d'intervention, comme le Conseil de sécurité européen qui intègre les Britanniques. Et donc ça, je pense que ce sera aussi une priorité pour repenser nos partenariats.
Michel Duclos, vous vouliez ajouter quelque chose sur le sujet des alliés ?
Non, c'est peut-être pour aller dans le sens de Benjamin et renforcer ce qu'il indique. Le leadership, c'est effectivement de donner son opinion, de briser des tabous, mais c'est aussi beaucoup écouter et tenir compte des autres. Vous avez évoqué le cas de la Syrie. Il me semble que quand Akakal, la ministre de la Défense allemande, qui est aussi un personnage important dans la CDU, a fait cette proposition d'une force de maintien de la paix dans le nord-est syrien, c'était probablement pas réaliste, c'était inadéquat, etc. Mais il fallait pas la repousser d'un revers de la main. Il fallait dire oui, d'accord, discutons, etc. Nous nous serions épargnés beaucoup de drames et nous aurions évité la situation épouvantable qui est la nôtre actuellement si en Syrie on avait davantage pris en compte la préoccupation des Turcs lorsqu'ils réclamaient au début du conflit syrien une zone tampon de sécurité, etc., qui là aussi était peut-être techniquement difficile, mal pensée, mais l'a rejeté complètement, ça a rejeté aussi la Turquie dans le camp d'en face. Donc, dans le cadre d'une stratégie pour mettre en œuvre nos brillantes idées, il est très important de s'appuyer sur les propositions des autres, me semble-t-il.
Juste une dernière petite question, Benjamin Haddad, très très rapidement. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui l'initiative lancée par Emmanuel Macron pour sauver l'accord nucléaire iranien est morte ou pas ?
Ouais, ça ne dépend pas que de lui, évidemment. Ça dépend à la fois du comportement des Américains et puis de l'élection de 2020. Ça dépend de la façon dont les Iraniens ont envie de réagir. Il a raison d'essayer de faire ce qu'il peut, c'est-à-dire de faire le médiateur en gardant des liens forts avec Donald Trump et le leadership iranien. Mais là-dessus, c'est là qu'on voit aussi que nos marges de manœuvre sont limitées.
Merci beaucoup. C'est la fin de Culture Monde. Merci à Benjamin Haddad, à Michel Duclos et à Jacques Rupnik d'y avoir participé. La série sur les disrupteurs se poursuit demain avec le président turc Erdogan et tout de suite la grande table d'Olivia Gisbert. Sprayed you into my eyes. PM Gabba Ben's death quivers last rattle last chose. Ocala's and cares glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left hand grasp.